Sud Radio. Sud Radio. Qu'est-ce qui vous fait courir ?
Sylvain Augier.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver comme chaque jour avec un nouvel invité qui s'appelle Pierre-Antoine Muraccioli, que vous connaissez mieux sous le nom de Antoine. Bonjour Antoine.
Bonjour Sylvain, bonjour tout le monde. Bonjour le sud de la radio.
Vous venez nous rendre visite à l'occasion du salon nautique où on va vous voir encore pendant 3 jours, je crois.
Oui, encore tout le week-end. Là, ça, c'est le salon bat son plein. On est entouré de bateaux. Il y a des mouettes et des goélands qui volent sur la porte de Versailles. C'est très joli.
Vous allez pouvoir dédicacer votre dernier ouvrage qui est superbe chez Gallimard, qui s'appelle 40 ans de navigation. 40, les plus belles escales que vous ayez faites depuis 40 ans que ça dure maintenant.
Oui, oui, on a choisi 40 des plus belles escales, parmi les plus belles photos qu'on ait pu faire. Actuellement, je dis « on » parce que ma compagne française navigue avec moi et fait des photos, tandis que moi, je filme. Alors, on se partage un petit peu, elle filme aussi, je photographie, mais c'est un travail qu'on fait à deux, quoi. Et donc, on a choisi des plus belles photos qu'on a réalisées au fil de toutes ces années. Et puis, voilà, ça fait une petite partie de nos voyages.
Ça fait rêver. Alors, petite partie de vos voyages, oui, parce qu'il sort aussi un film en ce moment en DVD qui s'appelle « Il était une fois, le Canada », le fameux jeu de mots sur les îles, évidemment, qui est un film que vous avez réalisé au Canada aussi. Donc.
Voilà, c'est ça. On continue depuis notre départ en bateau. On réalise des films. Actuellement, on est à 33 films. Le nouveau, c'est sur le Canada. Et il y a un truc qui est assez amusant. Dans le livre est un album de photos avec plein de doubles, des grandes pages de photos, etc. Il y a des QR codes, c'est-à-dire des petits codes qu'on scanne avec un téléphone, avec un smartphone ou avec une tablette. Et on peut lire directement, aussitôt, sur le smartphone ou la tablette, on peut lire une vingtaine de cartes postales de sujets de 3 minutes sur chacune des îles qui sont choisies là-dedans.
Quoi. Toujours à la pointe du progrès technique.
Ah, ben, on est très high-tech et ma compagne est extrêmement high-tech aussi. Et à deux, on a une énorme entreprise. On a commencé, on était deux il y a 20 ans. Maintenant, on est toujours deux. Alors, elle maîtrise spécialement très bien beaucoup mieux que moi encore la technologie.
On peut aller d'ailleurs consulter les photos et les livres et les films sur un site que vous avez créé, non?
Voilà. Si vous voulez savoir un peu plus sur tous nos voyages, tous les voyages et les films et les livres et tout ça, c'est antoine.tv, comme la télévision.
Facile.
Antoine.tv, c'est tout simple. Et il y a quelques milliers de pages d'informations sur les voyages. Choisir où aller, en quelle saison, qu'est-ce qu'il faut voir dans un petit peu tous les pays de la planète qu'on a eu le bonheur de visiter au cours de ces aventures.
C'est aussi un moyen de savoir où vous retrouver, puisque vous allez être en tournée pour Connaissance du Monde, avec un nouveau film sur l'océan Indien, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. On est en tournée depuis 1 an et demi avec un film sur l'océan Indien. Donc là, j'étais parti naviguer, on va en parler tout à l'heure, mais j'étais parti naviguer dans le Pacifique. Mais là, dès le 15 décembre et jusque début février, on a une 45 conférences avec Connaissance du Monde.
En salle de cinéma.
En salle de cinéma, en général, des salles de cinéma, un peu partout en France et en Suisse. Et en Suisse cette fois-ci. Et on descend pas dans le sud-ouest, on va pas plus loin que Cognac, disons, plus au sud-ouest que Cognac. Mais on se balade un peu partout en France. Et c'est très agréable. C'est très agréable. C'est souvent en matinée, parfois en soirée, parfois même en matinée à 11h du matin le dimanche. Et c'est très amusant.
En fait, vous n'arrêtez pas quand vous arrivez en métropole en France.
Ah ben, c'est quand je rentre en France.
Vous courez les plateaux télé, radio.
Je ne dirais pas que je cours les plateaux, mais depuis 40 ans que je voyage comme ça, j'ai établi non pas un système, mais des habitudes, quoi. Et j'ai réalisé que la profession que nous faisons, on a la chance. Comme par exemple, il y a d'autres professions comme celle de moniteur de ski, c'est saisonnier par exemple. Moi, je suis quand même moniteur de ski, c'est-à-dire que je reviens quand c'est la saison, quoi. La saison, la fin d'année, quand les gens ont envie d'acheter des cadeaux, tout ça, et que le froid les fait flipper un peu, alors ils ont envie de voir des belles images. Donc, ça fait pas mal d'années que on revient à cette période-là, 3 mois, et puis le reste de l'année, les 2/3 ou les 3/4 de l'année, eh bien on les passe à naviguer ou à voyager pour des tournages.
Oui, vous avez une vie de rêve, quoi, celle que tout le monde vous envie.
Ah bah, cette vie me fait rêver, alors donc, elle nous fait rêver nous aussi. Donc,
vous avez 70 ans, vous êtes toujours aussi jeune, toujours en chemise à fleurs.
Toujours en chemise à fleurs, dommage que ça se voit pas à la radio. Mais...
Les cheveux longs, la barbe poivre et sel.
Oui. Non, bah écoutez, j'ai toujours 20 ans, hein, comme je chantais, on a toujours 20 ans. Quand on aime ce qu'on fait, on a toujours 20 ans, voilà, comme je chantais dans les élucubrations. Ça fera 50 ans dans 2 ans, d'ailleurs. Et je suis toujours passionné. C'est vrai que ça, c'est un privilège formidable de vivre de ce qu'on aime faire. Moi, j'aime voyager, c'est les voyages qui me font vivre, quoi. Et je les raconte, je suis pas sur le totalement sur le devant de la scène, obligé de faire une émission toutes les semaines ou tous les mois avec une grande chaîne qui m'appuierait, donc, mais qui me harcèlerait en même temps. Je travaille, j'ai la chance d'avoir des relations. Gallimard, par exemple, l'éditeur. L'éditeur, on a publié une vingtaine de livres chez Gallimard.
Vous ne pouvez pas trouver mieux que, comme éditeur.
Vous ne pouvez pas trouver mieux. Ou chez Warner, nos films sont chez Warner Home Video. Et c'est tous des gens avec qui on a des... On n'imaginerait pas qu'avec des multinationales comme ça, on pourrait avoir des très grandes sociétés comme ça, on puisse avoir des rapports humains. Et c'est vrai, j'ai vraiment des rapports humains avec eux. On s'éclate bien, quoi. C'est vraiment un vrai bonheur. Là, on a tous nos films, on fait en sorte qu'ils restent toujours disponibles, y compris ceux qu'on a réalisés il y a 20 ans, d'une façon ou d'une autre et tout. Enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais sur le site internet, il y a toutes les explications, un petit peu où retrouver tout ça.
Sud Radio. Qu'est-ce qui vous fait courir ?
Sylvain Augier.
Qu'est-ce qui fait courir Antoine depuis 40 ans et quelques maintenant ? Je voudrais revenir à l'historique de l'histoire et aux élucubrations qui vous ont fait connaître, qui a été un succès phénoménal, mais à la suite duquel je ne sais pas ce qui s'est passé pour que vous partiez comme ça en solitaire un jour.
Oh ben j'étais déjà en solitaire. Hein. J'étais déjà en solitaire dans la vie. J'ai été grand voyageur d'abord grâce à mes parents. Dès l'enfance, j'ai traversé 4 fois l'Atlantique sur des paquebots avant même d'avoir 10 ans. J'ai visité l'Afrique, pardon. J'ai visité le Saint-Pierre-et-Miquelon, le Cameroun, différents. Je suis né à Madagascar, ce qui fait que j'ai quelque part, j'étais prédestiné au voyage, quoi. Et lorsque la chanson est arrivée, eh bien, je me suis dit, c'est bien la chanson, mais voyons voir s'il y a des voyages dedans, quoi. Et j'en ai fait beaucoup de voyages. Je suis allé chanter au Brésil, en Italie, en Allemagne.
En Grèce, partout.
Au Québec, un peu partout, oui. J'ai fait des voyages incroyables pour faire des reportages photographiques à l'époque.
Mais c'était des faux voyages, parce que vous vous trouviez dans un hôtel, c'était,
voilà,
c'était avion, hôtel, concert, retour.
Voilà, c'est ça. C'était limité comme ça, quoi. Il y avait un truc, par contre, que j'ai apprécié et que j'ai mis en pratique depuis, mais que je continue à mettre en pratique. Il y avait des reportages qu'on faisait pour Salut les copains. C'était un magazine qui avait, les photographes avaient tous les moyens. Philippe Aki leur donnait tout l'argent qu'ils voulaient pour aller faire le reportage. Alors on était invités, on partait par exemple à Cuba, tout frais payé, dans le luxe, le confort et tout et tout. On partait à Cuba ou Sheila partait au Japon ou bien Paul Naref en Californie, etc. Et on était photographiés devant des beaux paysages.
Et le rêve.
Voilà. On faisait ça. On n'était pas payé, mais on faisait 15 jours de rêve, de 10 jours. On était parti, on oubliait les soucis d'enregistrement, les séances, la promotion et tout. On était au bout du monde, quoi. Et ça me plaisait beaucoup, quoi. Et c'est un peu ça que je fais depuis 40 ans maintenant.
En fait,
maintenant.
Vous n'avez jamais arrêté, quoi.
C'est-à-dire que, voilà, je vais dans les endroits les plus beaux de la planète. Je me mets de temps en temps dans le cadre pour donner une dimension à l'image. Et puis, j'en rencontre avec les films et les livres.
Mais pourquoi n'avez-vous pas continué dans la chanson après ce succès incroyable des élucubrations?
Ben, parce que la chanson, c'était limité. J'ai fait pendant 8 ans. J'ai eu d'autres chansons comme J'appelle Canel, Bonjour Salut, Taxi. J'ai eu des succès encore plus forts en Italie. J'ai eu des tubes incroyables en Italie.
Oui, vous êtes une star en Italie.
Un
oui.
Succès différent, des chansons différentes et tout. Mais, ça me suffisait pas, quoi. J'allais pas faire ça toute ma vie, quoi. J'allais pas me contenter de ça toute ma vie. Donc, je me suis dit, je vais partir. Les gens du métier m'ont dit, si tu pars comme ça en bateau, dans 6 mois, on sait plus qui tu es. Dans 6 mois, t'es oublié, quoi. Je dis, s'il faut courir le risque, je le cours, quoi. Et puis, au contraire, au fil des années, ma popularité, le rapport, la relation vraiment privilégiée que j'ai avec le public, pardon, c'est le fond. Je prends froid dans Paris. Là.
Vous n'êtes pas habitué au climat. Hein.
Voilà, c'est l'hiver. Donc cette relation privilégiée n'a fait que s'accroître. Quoi. Je suis très touché quand je reviens en France, comme c'est le cas maintenant, après une année, près d'une année de navigation dans le Pacifique. Je suis très touché de l'accueil des gens, quoi. Partout dans la rue, les bistrots, sur les plateaux et tout ça, la gentillesse, les gens. Quelque part, je porte un petit peu le rêve qui.
Ah ben ça, c'est clair.
Le rêve qu'ils ont au fond d'eux. Et des fois, on me demande. Mais cette vie-là, tout le monde se voit. Ce que vous faites, tout le monde peut pas le faire. Et moi, j'ai une réponse, c'est tout le monde peut pas le faire, mais chacun peut le faire. Chacun pourrait le faire.
Mais on pourrait se dire que vous êtes parti avec beaucoup d'argent après les succès du showbiz, et apparemment pas.
Non, je suis parti. J'ai dû vendre ma maison parce que j'avais fait une comédie musicale qui avait pas marché, enfin suffisamment marché. J'avais tout payé moi-même, donc j'ai dû vendre ma maison, la maison que j'avais à Boulogne. J'ai vendu la maison, j'ai payé mes impôts en retard. J'ai payé la banque et tout, j'ai mes comptes, etc. Et je me suis acheté la coque d'un bateau. Et quand je suis parti, le bateau était pratiquement pas aménagé. Je suis parti à l'aventure. Je connaissais pas beaucoup non plus la navigation. Et puis j'ai appris sur le tas.
Vous deviez partir à plusieurs. En fait, tout le monde vous a lâché. Oui, vous êtes parti tout seul.
C'est ça. Je sais pas qui m'ait lâché, mais c'était un petit peu réciproque. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui avait une vie différente, des projets différents. Le projet s'était dégonflé, quoi. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que la seule façon de le réaliser, de le faire vraiment bien, c'était de partir en solitaire.
Et là, ça a été le déclic.
Et ça a été le déclic. Oui, ça a été le déclic. C'était il y a 40 ans maintenant, cette année. Je pensais que ça durait 8 ans et ça dure encore 40 ans après.
Sud Radio.
Qu'est-ce qui vous fait courir ?
Sylvain Augier.
Qu'est-ce qui fait courir Antoine, le navigateur qui nous revient à l'occasion du Salon Nautique et pour parler de son nouveau livre et de son film, une belle actualité comme d'habitude. Mais je voudrais revenir à vos débuts. À quel moment avez-vous eu le déclic en vous disant « je peux en vivre » ?
Comment, à quel moment j'ai eu le déclic de
qu'est-ce qui s'est passé
comment
dans
le vivre du voyage?
Oui, c'est ça.
Bah, c'était déjà dans la chanson. J'étais déjà voyageur. Moi, j'avais commencé à faire d'autostop à travers l'Europe. Et comme j'avais pas d'argent, j'ai fait la Manche. J'ai fait la Manche sur une place à Marseille. Et première fois que j'ai chanté des chansons en public, j'ai gagné de quoi m'acheter un pantalon et une chemise. Voilà. Et donc, je me suis dit, on peut vivre comme ça. C'était totalement improbable. Vivre d'une forme d'art comme ça. On raconte sa vie, on raconte ses voyages et tout. Je faisais en chanson. Et ensuite, bon, quand je suis parti, j'étais pas sûr du tout, j'avais pas beaucoup de revenus.
Mais vous auriez pu choisir un métier, vous sortiez de l'école centrale.
Oui, mais j'aurais pu. Non, mais ça date d'avant même le choix du bateau, ça. Il était clair que quand j'ai terminé mes études à centrale, mais que déjà un an et demi avant la fin, je savais que je ferais autre chose, quoi.
Ah oui.
J'ai continué les études parce que mon père était ingénieur, c'était bien, mes parents avaient payé mes études, c'était normal que j'aille jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout. Mais le jour où j'ai passé mon dernier examen de centrale, je passais en vedette à l'Olympia le même soir, quoi. C'était assez amusant. Donc j'ai fini mon projet de fin d'année, j'ai fini ma scolarité et tout. Mais j'ai jamais rien construit par la suite, quoi.
Et vous vous êtes dit, je partirai.
Voilà. Et puis, je me suis dit que, de toute façon, il y a un évangile que j'aime bien, c'est l'évangile des oiseaux du ciel. Regardez-les. Alors que tout le monde, y compris la religion, nous dit qu'il faut être là en train de bosser, de travailler, surtout d'avoir peur du futur, quoi, peur de l'avenir, etc. Il y en a un qui dit, ne vous préoccupez pas, ça s'arrangera. Quelque part, d'une façon ou votre père du ciel, je suis pas croyant du tout, mais je trouve que là, il y a un évangile intéressant, quoi. Et je me suis dit, bon, ben, s'il y a des choses qui marchent pas, il y en aura d'autres qui marcheront, quoi. Voilà. Et je suis parti, je pensais faire des spectacles en voyage, puis ça marchait pas, c'était trop compliqué. Par contre, j'ai reçu tout d'un coup un appel d'un éditeur qui m'a proposé d'écrire le premier livre, alors j'ai fait ça, et puis ensuite, des disques, et puis des films sont assez arrivés, un tas de déclics chaque fois qui se produisent et qui m'ont amené des occasions qu'il faut saisir, parce que c'est pas tout d'avoir des occasions, d'avoir des possibilités, il faut aussi les saisir, quoi.
Est-ce qu'il faut pas gagner beaucoup d'argent pour se permettre ce rêve?
Non, parce que moi je vois les gens qui sont sur des bateaux, qui vivent une vie un peu comparable à la mienne, bon, qui reviennent moins souvent parce que moi j'ai mon travail me ramenant plus souvent en France, c'est un peu plus compliqué, mais les gens qui vivent sur des bateaux, la plupart du temps, c'est pas des gens qui ont des gros revenus. Ça peut être des retraités qui ont une petite retraite confortable. Ça peut être des gens qui ont bien gagné leur vie puis qui prennent une année ou 10 années sabbatiques. Et puis, c'est pas ceux qui ont beaucoup d'argent. Ceux qui ont beaucoup d'argent qui peuvent s'acheter des grands yachts de luxe. Ils ont trop d'affaires à soigner. Ils peuvent pas partir parce qu'il faut qu'ils s'occupent de leur argent, quoi.
J'ai lu quelque part dans une interview à Challenge, je crois, que vous dites que vous avez à peu près 2000 euros par mois hors frais, c'est ça?
Oui, ça c'est une fois dépensé, une fois payé les impôts et payé les charges. Par exemple, le tournage d'un film comme ce qu'on fait, ça coûte à peu près entre 20 000, 30 000 euros, quoi. Donc, ça fait partie des dépenses de fonctionnement. Et je pense que le journaliste était un petit peu conservateur, comme on dit là-dessus, mais c'est à peu près ce qui reste une fois qu'on a payé les charges. Moi, je paye mes impôts en France. Hein. Je suis domicilié en France, je paye mes impôts en France. C'est à peu près ce qui reste pour vivre, et on vit correctement, d'autant plus que le travail nous apporte énormément de plaisir. Les voyages, c'est des frais professionnels. Je dois être une des seules personnes qui peut aller faire un voyage à travers toute l'Asie du Sud-Est. Non, vous avez connu ça aussi avec des émissions, des reportages, etc. Mais c'est un privilège incroyable de pouvoir vraiment vivre de ce qu'on fait. Et puis, j'ai pas besoin de beaucoup plus d'argent que ça.
Vous restez aussi émerveillé que ça, 70 ans?
Ah, toujours émerveillé. Toujours émerveillé.
C'est la jeunesse éternelle, ça.
Ah oui, non, là, on a, On a fait un petit retour aux Antilles pour un tournage d'un film qui paraîtra l'année prochaine. Je suis en train de bâtir, juste avant de venir faire l'émission, j'ai été au téléphone avec une agence de voyage anglaise spécialisée dans des voyages un peu compliqués. Et on va faire un tournage qui nous amènera à Pondichéry, à Colombo, en Birmanie, au Laos, aux Philippines, avant de rejoindre le bateau qui est en Australie.
Voilà. Vous continuez à nous faire rêver, décidément. Hein.
Je rêve déjà. J'essaie de me faire rêver moi-même, voilà. J'essaie déjà le début, faire rêver moi-même et ma compagne Francette, là, à partir du moment où on adore les voyages, on adore s'exprimer. Elle fait, je le disais, elle fait la plupart des photos du livre. Moi, je filme, on se partage le travail et on est émerveillés comme des gamins. C'est vrai.
Alors, on vous imagine en vacances dès que vous regagnez votre voilier. En fait, pas du tout, vous bossez comme un fou.
Ah non, mais on travaille bien sur le bateau. C'est pas 9 mois dans le hamac. Hein. Il y a les montages des films, les travaux sur les livres, les photos, les traitements, tout ça. Et puis la partie des tournages proprement dit. Et puis le bateau lui-même, ça y a de quoi occuper un jeune homme. Hein.
Est-ce que vous connaissez le côté anxieux des créateurs comme vous l'êtes vous?
Non, j'ai pas.
Est-ce que ça va marcher ou pas? Est-ce que ça va plaire?
Je suis assez, comment dire, pragmatique et assez fataliste. Si ça marche, que je disais, si ça marche pas, c'est pas grave. Si ça marche, tant mieux. Voilà. Je me préoccupe pas. J'ai pas d'idées noires et d'idées sombres. J'ai pas la peur de la page blanche.
Peur du lendemain, extrêmement. Non.
Non. J'ai pas du tout la peur du lendemain. Je fais confiance au destin.
Vous dites ça marche depuis 40 ans, donc pourquoi ça continuerait
oui,
pas quoi.
Ça marcherait bien. Il y aura toujours quelque chose qui marchera, juste assez pour. Faut pas avoir de grands besoins. Voilà.
Sud Radio. Qu'est-ce qui vous fait courir ?
Sylvain Augier.
Qu'est-ce qui fait courir Antoine ? Chanteur, voyageur, photographe, réalisateur, autant de métiers que vous pratiquez depuis 40 ans maintenant. Vous avez appris sur le tas, comment vous faites ? C'est compliqué d'être photographe ou réalisateur de télévision.
J'ai tout appris sur le tas, hein. C'est pas... mais j'avais un avantage quand même, c'est que ayant... fait centrale, pas centrale de Clairvaux, pas centrale de Fleury-Mérogis, mais l'école centrale, eh ben, j'ai appris à apprendre. C'est-à-dire que quand on sort d'une école d'ingénieur, on sait à peu près tirer l'essentiel d'un gros manuel que d'autres gens peut-être apprendraient, mettraient des années à apprendre en quelques jours ou en quelques heures, quoi. Et donc, j'ai pu apprendre à faire de la photographie, à faire de la vidéo, et puis à pratiquer toutes sortes de métiers. Hein. Je crois que j'ai pratiqué à peu près 27 métiers différents.
C'est vrai?
Oui.
Par exemple?
Et quand je dis 27 métiers, c'est-à-dire qu'ils m'ont été... pour lesquels j'ai été rémunéré, hein. même de trois nefles, mais pas les hobbies, quoi, je compte pas les hobbies. Mais tout, auteur, compositeur, éditeur, arrangeur, photographe, animateur, présentateur, commentateur, et j'en passe, quoi. J'avais fait une liste, j'avais trouvé 27 métiers. Quoi.
Et faire du voilier, vous avez appris tout seul ou vous avez fait une école?
J'ai appris presque tout seul. C'est-à-dire que quand j'ai eu le coup de foudre, en 1969, à 25 ans, je suis monté sur un bateau presque par accident. Et tout de suite, ça m'a séduit et j'ai voulu apprendre. Et pour apprendre, j'ai fait avec des copains, on a fait des croisières une fois tous les ans à peu près ou un peu plus de quelques semaines avec un skipper qui avait pour mission de nous apprendre, quoi. Pas seulement pour nous véhiculer, quoi.
Vous devez avoir un caractère très têtu pour être allé au bout de votre rêve.
Oh, je suis têtu, je sais pas, je suis persistant plutôt que têtu.
Non, mais quand, le rêve, quand il vous a pris, il vous a plus lâché.
Ah non, il m'a plus lâché, non. Et puis, c'était incontournable, hein. C'était même pas question que, quand je suis arrivé à Marseille avec mon bateau, qui avait encore c'était 74, il y a aujourd'hui 40 ans, quoi. Et le bateau était pas prêt du tout à partir, il manquait un tas de choses. Mais l'hiver arrivé, il était pas question que je reste, à bassiner dans le vieux port, à rester à flotter sur les eaux du vieux port pendant tout l'hiver. Non, il fallait que je parte, quoi. Et quand je suis parti, le bateau, il était vide. Il n'y avait pas un aménagement dedans. On avait bricolé une couchette. J'avais des sacs à voile attachés et des sacs de ravitaillement attachés avec des ficelles aux membrures du bateau, de la coque, à l'intérieur de la coque. Et puis c'est tout, quoi. Il n'y avait pas aménagé. Et petit à petit, j'ai aménagé au long du voyage.
Si on vous avait dit à 20 ans que vous seriez là 40 ans après, 45 ans même maintenant, à en vivre de ce rêve.
Ça m'aurait pas surpris parce que j'étais, parce que j'étais sûr de mon endroit, j'étais sûr que j'étais sur la bonne voie, quoi. C'était, ça, j'ai eu la conviction très vite que j'étais sur la bonne voie, quoi. Mais je me suis pas posé la question, est-ce que dans 40 ans je serai encore célèbre? Est-ce que dans 40 ans on m'interviewera dans les émissions? Est-ce que je serai invité sur le divan de Michel Drucker, qui déjà animait des émissions à l'époque? J'en avais animé beaucoup, moi, des émissions avant. Ça me préoccupait pas du tout, quoi. Et puis, le temps est passé, les années sont passées avec régulièrement des nouveaux succès, des nouvelles ouvertures. Et ça était un plaisir permanent. Et puis j'espère qu'il y en a encore pour quelques années.
Mais vous avez plein de projets.
Ah oui, plein de projets. On continue à faire des films, on continue à réaliser des films. Je le raconte d'ailleurs sur notre site, hein, un petit peu. Je vous disais, on va aller en Asie du Sud-Est, faire un voyage dans pas mal d'endroits, Colombo, Pondichéry, la Birmanie, un film sur l'Asie du Sud-Est, y compris Français ne connaît pas encore les Philippines et il faut qu'on y passe faire un tour.
Il faut qu'on y aille.
Et puis après, on a le bateau qui nous attend en Australie. Là, j'ai amené le bateau donc de Tahiti en Australie.
Vous dites ça comme ça en un claquement de doigts.
3600 milles, oui, la même route que la route du Rhum. Sauf que moi, j'étais pas en course, donc je m'arrêtais tous les 3-4 jours dans des îles, retrouver des copains ou en découvrir d'autres. Et puis le bateau est là-bas. Alors maintenant, pendant que je suis en train de me produire en France, j'ai un copain navigateur qui a tourné des films avec moi aussi. Que vous connaissez peut-être, Arnaud de Bellinet, qui a réalisé beaucoup de films aussi. Et je lui ai prêté le bateau pendant 3 mois avec sa femme et ses gosses. Ils sont en train de naviguer au large de l'Australie. Là, voilà.
Donc vous venez passer 3 mois en France. Vous êtes un peu comme l'oiseau migrateur. Tout le monde vous attend. Vous faites le journal de TF1, de France 2, Michel Drucker. Vous venez même à Sud Radio.
Voilà. Et puis c'est un plaisir parce que Sylvain Augier, on a eu des belles aventures en commun. Et puis j'ai suivi votre parcours toujours. Et puis voilà, je ne peux pas rêver mieux, hein.
C'est incroyable ce rêve, il est vraiment incroyable, il est unique, il fallait que ce soit vous.
Ouais, bah, il fallait que ça soit moi, ça c'est une bonne... Je retiendrai cette image, il fallait que ça soit moi.
Qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui viennent vous voir en vous demandant s'il est possible de partir et de vivre comme vous?
Ben, je dis que le plus grand voyage, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une phrase que disait un de mes illustres prédécesseurs, le grand navigateur Bernard Moitessier, et c'est que le plus grand voyage commence par un petit pas. Il ne s'agit pas de se jeter à l'eau, de dire « Fontaine, je ne boirai plus de ton eau », de tout cracher, de casser, de brûler ses meubles et tout. Faire des petits pas, de sortir des sentiers battus, quoi. On fait un petit pas, même déjà en ville, même déjà s'éloigner un peu de Paris un jour, et puis ensuite, et ainsi de suite. Et puis, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on est à l'autre bout du monde, parce que le grand voyage commence par un petit pas.
Sud Radio. Qu'est-ce qui vous fait courir ?
Sylvain Augier.
Avec notre ami Antoine, on va vous retrouver donc sur le salon nautique encore pour 3 jours pour faire des dédicaces du livre qui vient de sortir, 40 escales, 40 ans de navigation, votre nouveau film qui vient de sortir aussi, Il était une fois le Canada. On doit vous poser la question souvent de savoir s'il est possible de partir et de vivre comme vous, Antoine, non ?
Oui, c'est ce que je te dis, on peut partir, il y a toutes sortes de façons de partir, quoi. On n'est pas forcé d'aller au bout du monde, ce livre présente aussi des destinations plus proches, et si on choisit, on est assez malin pour ne pas choisir l'endroit où tout le monde va, la saison où tout le monde va, si on arrive à ménager son calendrier, son horaire de travail, eh ben, des tas de choses sont possibles sans forcément partir très loin, quoi.
On peut faire des métiers à l'étranger?
Alors, il y a des gens qui choisissent de partir pour la vie et qui voyagent grâce à leur métier, des métiers de mécanicien, dieseliste, j'ai des amis médecins ou infirmières, des gens qui s'installent pour un an ou plus dans un lagon d'une île de Polynésie. Et parce qu'il y a besoin d'infirmiers là-bas, d'infirmiers, d'infirmières, ou des enseignants, professeurs de gymnastique. Il y a des activités comme ça qu'on peut faire partout, quoi. Comme disait le journaliste de Challenge, l'article dont vous parliez tout à l'heure, par contre, directeur du marketing, c'est pas évident d'appliquer ça, de trouver du boulot avec ça, quoi.
Ouais, ça c'est clair. Vous rencontrez beaucoup de Français à l'étranger?
Oui, des Français, puis des voyageurs. Moi, je rencontre des voyageurs de tous les pays, quoi. Là, c'est marrant, de tous âges. Je pense à l'instant à quelqu'un, une dame, dans une île des Tonga où j'ai fait escale, une île qui me tentait depuis longtemps, qui a une plage immense de 10 kilomètres, il y a un petit hôtel qui s'est créé, enfin des petits bungalows, une dizaine de petits bungalows noyés dans la végétation, vraiment perdus, tout à fait simple et tout. Et c'est une femme, une américaine, qui est arrivée sur un voilier, s'est installée là, elle a 73 ans, 73 ans, elle a créé un centre de remise en forme, de fitness.
Génial.
Si vous avez un coup de mou, il faut aller là-bas. C'est pas cher, c'est des petits bungalows. Bon, le voyage coûte un peu cher, c'est loin. Hein. Et elle est extraordinaire. Elle fait des massages fabuleux à 73 ans. Elle a une pêche incroyable et c'est un endroit de rêve.
Oui, il faut croire à son rêve, quoi.
Voilà, c'est ça. Et puis, j'ai d'autres amis navigateurs qui sont installés. Elle est dermatologue, lui, il est vétérinaire. Ils sont installés en Nouvelle-Calédonie. Puis, leurs enfants ont grandi, puis ils vont repartir. Maintenant, ils viennent de se racheter un bateau. Il y a toutes sortes de gens. J'avais un ami dieseliste qui entretenait beaucoup de bateaux de gens de passage. Et d'autres qui sont installés un peu partout, à Panama. Puis tout d'un coup, on les voit repartir.
À vous écouter, rien n'est impossible. Il suffit d'y croire.
Ben, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Bon, c'est vrai que pour beaucoup de gens, ils sont enfermés dans un horaire, dans les obligations de carrière, ils sont peut-être harcelés dans leur travail aussi également.
Bah, souvent, on n'a pas le choix, hein, ouais. Quand même. C'est la majorité des cas.
C'est souvent le cas, mais quand je vois le nombre de personnes qui un jour étaient comme ça et puis qui un jour ont changé, je me dis que c'est possible, peut-être pas pour tout le monde, bien sûr, mais pour chacun.
Ça doit être un épanouissement incroyable. Quand on vous voit, c'est flagrant, mais j'imagine que vous n'êtes pas le seul à offrir cette mine réjouie.
De parmi les autres voyageurs comme
oui.
Ça. Ah non, c'est vrai que c'était une vie totalement différente. Quoi. Là, j'ai retrouvé un copain que j'ai retrouvé en Polynésie l'an dernier. Maintenant, il est reparti. Là, je le connais depuis 40 ans ou 38 ans. Et lui, il a élevé des enfants qui ont grandi maintenant. Et ils sont repartis. Actuellement, ils doivent être du côté de la Thaïlande ou de Singapour. Et des gens épanouis. Oui, on voit sur les bateaux, il y a beaucoup de gens épanouis comme ça. C'est pas toujours facile, hein. Il y a des moments difficiles, il y a des moments de tension, des moments de découragement. Mais au total, c'est une vie fascinante.
Quelle est votre escale favorite?
Je dois dire que d'une façon générale, depuis longtemps, c'est le Pacifique. Parce qu'il est tellement immense et tellement varié que je suis plus amoureux du Pacifique que des autres océans. Mais il y a une grande variété. Là, je disais, l'Australie, c'est fascinant. La Nouvelle-Zélande, où je compte retourner l'année prochaine, c'est un pays d'une beauté incroyable. Et puis, les îles comme la Polynésie, comme les Tonga, les Fidji, très, très différentes, très, très différentes, les Marquises. Et c'est la Nouvelle-Calédonie. Enfin, ce sont des îles qui ont une très grande variété. Et cet océan, il a presque toutes les beautés de la planète à lui tout seul, quoi.
Il y a une forme d'état-providence, si je puis dire, dans le monde entier, avec beaucoup d'escales francophones qui ont été d'anciennes colonies, qui restent encore des dom-tom aujourd'hui, dans lesquelles on parle français, où on peut facilement s'acclimater, non?
Voilà, puis on trouve une parenté culturelle, quoi. C'est un peu simple. Se schématiser en disant, on retrouve du camembert, quoi, par exemple. Mmh. On retrouve des produits français, les choses auxquelles on est habitué. On est content aussi de vivre totalement à l'anglaise en Nouvelle-Zélande, à l'espagnol, à la sud-américaine, au Panama ou au Brésil. Mais de temps en temps, c'est bien de retrouver nos racines, quoi. Nous sommes français. C'est un merveilleux pays où je suis très content de revenir, passer quelques mois tous les ans. Et on se retrouve comme ça. C'est vrai que les dom-toms, c'est des coins très intéressants pour passer du temps. Et souvent, il y a dans les navigateurs des gens qui s'installent, travailler pendant un an, deux ans, trois ans dans un des dom-toms.
Sud Radio.
Qu'est-ce qui vous fait courir ?
Sylvain Augier.
Cette question, je la pose à Antoine, notre ami navigateur depuis le début de l'émission. D'ailleurs, vous n'y couperez pas, vous y répondrez dans quelques instants. Je voulais vous demander, vous êtes vraiment le rêve incarné, Antoine, quand on vous voit en photo, en couverture de ce beau livre qui vient de sortir, 40 escales de navigation, le film sur le Canada, Connaissance du monde avec un très beau film sur l'océan Indien. C'est le rêve incarné, mais il n'y a pas de temps en temps un revers de la médaille ?
Je crois pas qu'il y ait de revers de la médaille. Je crois que je serais vraiment très malhonnête et ingrat de me plaindre de quoi que ce soit.
Je vous demande pas de vous plaindre, mais non. Faites-moi part des moments difficiles.
Non, on les oublie très vite. En bateau, c'est vrai qu'il y a un moment, dans ma traversée là, que j'ai faite il y a deux mois, à travers ces 3600 milles que j'ai fait en solitaire, parce que j'aime bien faire les traversées seules, et Francette, elle aime pas faire les grandes traversées parce qu'elle a le mal de mer. Alors donc, elle rejoint plutôt dans les beaux mouillages tranquilles, les belles baies tranquilles, et puis les traversées, j'aime bien les faire tout seul, quoi. Alors, c'est vrai qu'il y a des moments au milieu de l'océan où c'est pas la trouille, c'est pas la panique, ça peut être simplement qu'on est secoué parce qu'il y a une dépression qui passe et la mer devient très agitée, on fait avec, quoi. On fait avec, on grogne un peu, mais sitôt que le beau temps revient, on oublie tout, là, Et on n'a qu'une seule envie, c'est de repartir. C'est continuer à naviguer.
Ça continue.
Voilà.
Depuis
ça.
40 ans,
j'ai
ça
vraiment pas
d'idées
noires. Même dans le, les, j'ai eu des défaites en même temps que des échecs, aussi bien dans ma carrière, dans mes différentes carrières d'auteur, de musicien, de cinéaste, de vidéaste, enfin de réalisateur de documentaires. Il y a eu des, j'ai eu des échecs et des, autant que de victoires. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est ce qui compte, c'est le paysage global qu'on voit après, quoi, qui ressort de tout ça. Et moi, il me plaît bien.
Ouais, ça se voit. Vous êtes conscient du rêve que vous incarnez pour tout le monde?
Ben, je suis conscient, puis j'essaie d'être à la hauteur. C'est à la hauteur. Je suis un petit peu comme le gamin dans une banlieue fauchée où on construit tout d'un coup un palace. Évidemment, ils n'ont pas les moyens d'y aller, mais ils se cotisent tous. Ils se cotisent tous et ils en choisissent un qu'ils vont envoyer pour aller voir le palace, voir le bel endroit. Et puis, ils l'envoient, ils lui donnent un peu d'argent, il va voir. Et puis, s'il vient et le raconte bien, ben peut-être qu'il retournera faire autre chose comme ça, voir un autre palace ou un autre endroit de rêve.
C'est la philosophie de votre vie que vous résumez là.
C'est un peu ma philosophie. Oui, c'est un petit peu, j'ai l'impression de jouer ce rôle-là. C'est que j'essaye d'être à la hauteur. Dans les conférences, vous en avez fait beaucoup avec Connaissance du Monde, vous-même, Sylvain Augier. Donc, vous savez ce que c'est. Les gens qui sont là, vous sont là pour 2 heures, vous devez les faire rêver, quoi. Et c'est vraiment un genre de mission, hein. J'essaie d'être à la hauteur, voilà.
Vous devez être un bon homme d'affaires aussi, un bon technicien, puisque vous réalisez vos films vous-même et les photos avec Francette. Mais il faut savoir jongler avec les comptes, non?
Oui, mais j'en fais pas une obsession, hein. C'est pas, là aussi, c'est encore un privilège incroyable, quoi. C'est que sans rouler sur l'or, j'ai jamais eu de problème pour payer mes impôts. Jamais eu de problème. J'ai eu souvent des choses qui sont bien tombées juste au moment où je risquais d'avoir un problème.
Genre la campagne de pub d'Atoll.
Oui, bon, par exemple, j'avais à payer les études de mes 3 enfants. Mes 3 enfants, qui étaient juste au moment où il fallait fallait payer beaucoup des études coûteuses. Et ben, Atoll m'a permis de payer toutes leurs études. Ça, j'en suis très reconnaissant. Ça a été formidable. Ça a duré 12 ans. 12 ans à faire le porte-parole, l'icône des marchands de lunettes.
Maintenant, c'est Adrien Carambeu.
Oui, c'est Adrien Carambeu, c'est bien. Et Matt Pokora aussi. C'est glorieux. Et c'est vrai, ça a aidé mes enfants, maintenant ils sont grands, ma fille elle est cuisinière, elle est en Australie pour 2 ans, j'ai un fils qui termine ses études d'ingénieur, mais qui s'est pris une année de césure pour voyager, il est
comme vous il y a longtemps, quoi.
Voilà, il est en Costa Rica, sauf que moi l'année de césure a duré 40 ans, quoi.
Ouais, c'est ça dure 40 ans qu'elle est. Comment faites-vous pour monter vos propres projets quand vous êtes loin, quand vous êtes éloigné? Vous ne savez pas forcément ce qu'une télévision va vouloir.
Ah, mais ça, je m'en fiche totalement, moi.
Ah bon?
Je m'en fiche, je ne travaille pas pour les télévisions. Je fais les films que je veux. On fait les films qu'on veut, Francette et moi. On les fait comme on aime. On a la chance. On a notre propre budget. On demande jamais un budget à personne. On fait nos films nous-mêmes et puis après on voit. Certains sont achetés par la télévision italienne ou une chaîne française et puis d'autres pas. Mais c'est pas ça qui compte.
Aucun impératif de résultat.
Non, on veut être aucun. On fait notre travail du mieux possible, mais personne ne nous dit que notre travail.
Il n'y a aucun inconvénient à votre vie, alors elle est parfaite.
Ah, il y en a, mais c'est rien à côté des privilèges.
Qu'est-ce qui vous fait courir, Antoine?
Le vent qui me pousse. J'adore être vent arrière. Au début, je croyais qu'il fallait faire du pré, se battre pour aller vers des destinations impossibles. Et j'ai réalisé qu'en fait, il fallait prendre le vent et naviguer toute voile dehors. Et c'est ce que j'essaie de faire depuis 40 ans.
Est-ce que les choses, vous essayez, vous réussissez. Est-ce que les choses vous arrivent naturellement? Il y a une forme de providence à ça. Je pensais à cette campagne de pub arrivée pile au bon moment.
Il y a une forme de providence. Et puis aussi, il faut être aux aguets. Parce que c'est pas tout que les choses passent, se présentent devant vous, mais il faut savoir les saisir, quoi.
Oui, vous savez.
Ben, j'ai la chance d'y arriver, oui.
Il faut être un peu opportuniste?
Opportuniste, non, mais sauter sur les bonnes occasions, oui.
Est-ce qu'il y a une dimension métaphysique dans votre vie?
Non.
Avec ce rêve? Non,
il n'y a pas de métaphysique. Je crois pas. Je crois en rien du tout. Je crois en l'être humain. Je crois aux hommes, aux femmes, aux enfants, à la vie, au monde en général.
Vous allez continuer à courir toute votre vie?
Encore une bonne trentaine d'années, j'espère.
Minimum.
Minimum.
Merci d'être venu vous confier au micro de Sud Radio. Ça a été un plaisir de vous revoir, Antoine.
Merci Sylvain Rougier. C'est un plaisir de vous retrouver.
C'est gentil. Merci beaucoup. À bientôt. Et rendez-vous au Salon Nautique donc pour 3 jours pour faire une signature de ces 40 ans de navigation qu'on trouve maintenant partout chez les bonnes librairies, ainsi qu'il était une fois le Canada. Encore bravo, Antoine. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Voilà, notre émission exotique se termine. Je vous donne rendez-vous demain avec un autre invité. Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous. Au revoir.